sont des pays qu'on enchaîne.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans notre émission Histoire Drômoise.
Nous allons vous présenter un événement assez méconnu de notre histoire locale qui nous tient à cœur. La rafle de Vercheny du 27 décembre et de ses conséquences.
Nous sommes
Guillaume,
Robin,
Albin.
Pour ce projet, nous allons vous faire découvrir cette histoire drômoise.
Ce que vous allez découvrir dans peu de temps nous a demandé beaucoup de travail. Pour rendre encore plus vivant cette émission, nous nous sommes déplacés sur les lieux tragiques et gorgés d'histoire à la rencontre des habitants et des témoins.
Tout commence à Vercheny, dans la Drôme, entre Cré et Die, dans la France dite libre. Le 22 décembre 1940, un train permissionnaire allemand...
Mais dis-moi Albin, qu'est-ce que c'est qu'un train permissionnaire ?
C'est un train de soldats allemands ayant eu une permission pour rentrer chez eux un temps. Ce train déraille à 7h10 au kilomètre 41890. C'est l'œuvre de résistants drômois.
L'opération était menée par le directeur de l'école de Vercheny et quatre autres résistants du groupe Saillant-Vercheny. Le train était composé de 14 wagons qui ont brûlé en raison des radiateurs allumés. Ils transportaient des munitions qui ont explosé.
Le bilan fut de 19 militaires allemands décédés et plus de 40 blessés. Les Allemands n'allaient pas laisser cet acte terroriste sans punition.
Nous avons rencontré un témoin qui est Monsieur Élie Arnaud, un jeune écolier d'une dizaine d'années à cette époque. Il a assisté à tout l'envers du décor. Voici ses paroles émouvantes que nous avons souhaité partager avec vous.
Je m'appelle Élie Arnaud, je suis né à Vercheny en 1933. J'ai fait mes études primaires à l'école de Vercheny. J'ai appris mon métier de viticulteur. J'ai passé toute mon existence jusqu'à aujourd'hui à Vercheny. Je vais vous raconter quelques anecdotes dont je me rappelle. Au village de Vercheny, en 1940, donc sous la France était occupée, il y avait une interdiction de fêter le 11 novembre. Les habitants de Vercheny ont passé outre et ils ont quand même fait. Une partie des habitants se sont réunis et ont fêté le 11 novembre. C'est un premier point de résistance à l'occupant et aux autorités. En ce qui concerne spécialement le déraillement, moi j'avais une dizaine d'années. C'est un événement que j'ai connu. J'allais à l'école, donc le dernier jour de classe, ça devait être le 23 décembre. Et on avait, quand je suis arrivé à l'école, on voyait une grande fumée. Et c'est là qu'il y avait un train qui avait déraillé. À la suite de ce déraillement, il y avait plusieurs personnes ont été arrêtées. Elles ont été relâchées à la fin de la journée. Après, il y a eu donc les fêtes de Noël. Dans ma famille, très souvent, j'allais passer Noël chez ma tante au village de Oust. Et le lendemain des fêtes de Noël, ça devait être un lundi, c'était le 27 décembre. J'ai pris le car et je suis arrivé à Vercheny. Et quand on s'est arrêté, on s'est trouvé au milieu de l'armée allemande qui était postée de tous les côtés. Et je me souviens d'avoir, je les revois encore, une mitrailleuse à droite et une mitrailleuse à gauche. Alors, bon, on ne nous a rien dit, nous, on est montés. J'ai su que mon frère avait été arrêté le matin d'une rafle. Mais le maire donc, a accompagné donc, au village, le maire a accompagné le détachement qui passait dans toutes les maisons. Et le maire a dit il est trop jeune, il a 15 ans, et donc il n'a pas été arrêté. Par contre, mon père, lui, il partait en vélo et il a été arrêté à la gare. Il s'est trouvé donc avec le groupe de tous les gens qui ont été arrêtés. Les 57 personnes ont été emmenées en Allemagne. Bien sûr, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc déjà, à l'époque, il y avait un groupe de résistance, puisque c'est eux qui avaient fait... qui avait fait l'attentat pour faire dérailler le train. Et ce groupe était actif déjà jusqu'en 1944. Donc le groupe de résistance de Vershny faisait partie de la compagnie Ponce. C'est eux qui ont participé à la bataille d'Espenay. À partir du 6 juin, le Diwan était un peu libre. On s'était considéré, donc au 14 juillet, on a mis un drapeau à la fenêtre. Toutes les maisons avaient mis un drapeau, c'était une grande fête. Après, ben, on a vécu toujours un peu dans l'inquiétude. Et en même temps aussi, on sentait qu'il y avait parmi eux, parmi les Allemands, des gens qui étaient un peu comme nous, quoi, qui nous ressemblaient. Quoi. Voilà le souvenir de ce déraillement.
Cinq jours après le sabotage du convoi, le matin du 27 décembre 1940, lors des fêtes de fin d'année, les Allemands exercent de dures représailles dans les quatre communes les plus proches. Barsac, Pontex, Sainte-Croix et Vercheny.
Les Allemands prennent 3 otages pour chaque victime allemande décédée. 57 personnes prises au hasard parmi les hommes du village seront donc déportées. 37 n'en reviendront pas.
Les 57 otages prirent le train à Vercheny et furent déportés, soit en camp de concentration, comme notre témoin André Truchefaux, soit en centre de mise à mort, majoritairement vers les camps de concentration en Allemagne, car considérés comme opposants politiques, victimes de la répression nazie.
Nous avons recueilli le témoignage de André Truchefaux, ancien déporté du village de Barsac.
Bonjour, je suis André Truchefaux. J'avais 18 ans quand j'ai été arrêté, là, après le déraillement du train. On était dénoncé par un de Barsac, un nommé Achat.
Vous avez été dénoncé sur...
pour Barsac.
Je suis Anne-Marie Truchefaux, je suis la femme d'André, qui a 93 ans.
Caché les DSTO dans les fermes, là. Et les empêcher de partir en Allemagne travailler. Je suis rentré dans la résistance. Et...
avec le commandant Ponce.
Le commandant Ponce de Cré, qui était le grand patron. On était ici à Barsac, là. Hein. Et puis on entendait tirer des coups de fusil. Alors on était sur la crête, là, puis on a vu le déraillement du train, là, de loin. Et quand on est arrêté à Barsac, le regroupement était dans la cour de l'école. Là. Et ils ont pris tous les jeunes de 18 à 46 ans. Alors ils en ont pris 17 bonhommes ici. Et à Char, c'était une ferme en haut, là, avec son fils. Ils sont venus, et puis le père, il a regardé tout ce qui était arrêté, là. Et puis il a montré son papier de la Gestapo, et puis avec son fils, et puis on lui a dit, bah, vous pouvez repartir chez vous. Parce que la veille de la rafle, il arrivait de la Gestapo de Lyon. Il est venu lui dire, Robert, un conseil de te donner, remonte vite chez toi parce que demain il va se passer quelque chose. Puis nous autres, ça fait trois jours qu'on couchait dans les bois, dans les cabanes. Tout. On a dit, il ne va rien se passer. Puis le lendemain, il y a eu il est arrivé un groupe d'Allemands qui ont cerné tout le village. Impossible de se sauver. Et puis après, il est arrivé un groupe qui sont passés dans les maisons et qui ont ramassé tous les jeunes. Moi, on était deux. Mon frère avait 18 ans. Et mon frère, les Allemands l'ont pris le bras dans le plâtre. Là. On l'avait opéré du coude. Alors mon père a dit à l'Allemand, Mon fils malade, mais pas fils, mais pas garçon. Le garçon, c'était le STO qu'on avait caché dans, dans les caves, dans la cave. Là. Alors, ils savaient très bien qu'on cachait des réfractaires de STO. Alors, après, on est parti à Pontel, hein, à pied jusqu'à Pontel, hein, entouré d'Allemands, quoi, impossible de se sauver. Puis à Pontel, ils ont arrêté le train sur le pont sur le chemin de fer, là. Ils ont arrêté un train, et il y avait ceux de Sainte-Croix qui étaient déjà dans le train. Et ils ont ramassé ceux de Pontel, puis de Barsac, jusqu'à
Vercheny.
À
Vercheny, ils allaient à Lyon, où ils ont été interrogés par Barbier.
À Lyon, on a resté deux jours à Lyon, on a été interrogés sur le déraillement du train, mais personne n'en savait rien, alors personne n'a rien dit. En sortant de la prison, ils nous ont menottés. Par deux personnes. Après, on a été sur Compiègne.
Où ils sont restés jusqu'au 21 janvier.
Ouais.
Et après Compiègne, ils sont allés à Buchenwald. Mm-hmm. Alors Buchenwald, ça a mis trois jours, c'est ouais. Ça. Et après, il est allé à Flossenbourg, où il est resté un mois. Et puis après, il est parti en Tchécoslovaquie, à Radichko.
C'était une île entourée de la Moldavie. Il n'y avait que des SS, ils reformaient les SS, ils entraînaient tout et ça.
Et là, il y est resté.
Impossible de se sauver.
Là, il y est resté 14 mois, ouais. À peu près.
Nous autres, on a été libérés à Linz, en Autriche.
Le 8 mai, à 5h du soir. Le 8 mai.
Et le 8 mai, à 5h de l'après-midi, le train devait sauter. Le train devait sauter et terminer. La résistance tchèque l'ont su et ils ont arrêté le train.
Ils sont partis en camion.
En camion.
Et lui est arrivé par Mulhouse.
Merci de nous avoir écoutés. Notre émission touche à sa fin. Nous sommes heureux de vous avoir fait découvrir plus précisément ce sujet encore assez méconnu de notre histoire locale et drômoise. Nous avons fait la connaissance de personnes formidables. Nous en sommes très honorés et nous y avons pris bien sûr beaucoup de plaisir. Nous remercions aussi les témoins pour leur accueil chaleureux.
Nous vous laissons écouter ces messages que nos témoins souhaitent vous faire partager et que ces témoignages deviennent une référence pour les générations futures.
C'est un message politique, disons. Donc ce qui a amené la guerre, donc c'est en particulier l'avènement de l'hitlérisme, du nazisme, qui exclut un certain nombre de personnes, soit par leurs croyances, leurs couleurs ou leurs convictions, le racisme, c'est donc c'est bien une racine de mal de cette guerre. C'est tout ça, c'est un danger, bien sûr.
Il faut d'abord être vigilant parce que la bête immonde, elle est toujours partout. Partout. De plus revoir ça, mais comme on le revoit dans le monde entier, alors on se demande si la déportation de tous ces gens a servi à quelque chose. Mais sinon, mon mari, il n'a pas de haine.
Nous en profitons pour remercier Élie Arnaud,
André Truchefaux et bien sûr
Chantal Magna, directrice du musée Résistance à Romans-sur-Isère, pour tous les renseignements transmis.
Et n'oublions pas Radiola, la radio de Dieu le Fit, qui nous a permis de pouvoir enregistrer cette émission.
Ce qu'il fait quand il... la plage.